pas si j'y suis.
Oui, Daniel, Patrick dans la Drôme. Je viens de finir d'écouter le numéro 2 de l'émission sur l'Assemblée Générale Casino. Et se réactive une pensée que j'ai déjà depuis un moment. Quel est l'événement déclencheur qui fera que on cessera de laisser ces gens-là faire ce qu'ils font aujourd'hui? Quand est-ce que l'ensemble des gens qui souffrent comme ceux qui sont intervenus dans l'émission feront tout péter une nouvelle fois pour arrêter ce scandale de cette société qui ne vit que pour le fric et pour le pouvoir? En tout cas, super pour tes émissions. Merci Daniel, à bientôt.
Non, c'est peut-être l'inverse, mais c'est quand même significatif de Casino et de toutes les enseignes. Nous avions un magasin avec une enseigne Promodes. Donc à la fin du contrat, nous avons vendu à Casino, qui savait très bien que Promodes allait nous mettre au tribunal. Et bien sûr, ils ne nous ont pas soutenus, bien sûr. Et nous en sommes sortis, je ne sais trop comment. Nous avons quand même pu récupérer l'argent de la vente. Voilà, nous essayons d'oublier, parce que nous sommes passés par des années très très dures. Donc Casino, Promodes, Carrefour... tout dans le même sac.
Pom, 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 pom. Les auditeurs modestes et géniaux de Charente-Poitou, du café Mermé, du café Repère de Bressuire, du café de Thouars, vous proposent les universités d'été qui auraient lieu dans le Marais Poitevin. Le thème serait « On brasse des idées dans la yourte », car yourte il y aura. Et pour nous joindre, eh bien c'est facile, vous joignez le café Repère de Bressuire ou le café Repère de Thouars sur le site de là-bas, si j'y suis. Merci, on attend de vos nouvelles et on espère qu'on va tous brasser des trucs intéressants fin août, sous la yourte. Salut!
Le Rachel Corrie vogue vers Gaza. Qui était Rachel Corrie? Simone Biton a réalisé un film magnifique qui s'appelle Rachel et qui raconte l'histoire de cette jeune pacifiste américaine écrasée par un bulldozer israélien à Rafah, dans la bande de Gaza, en 2003, alors qu'elle s'opposait à la destruction d'une maison. On le programme à Utopia, à Toulouse, à Tournefeuille, etc. Et on suggère à tous les auditeurs de demander à leur salle de proximité de le programmer aussi, d'organiser des débats. C'est idéal pour comprendre les événements actuels. Et je rappelle aussi que les films du Paradoxe, qui le distribuent, le diffusent aussi en DVD. Donc il vous suffit de faire www, etc. Films du Paradoxe, tout en petit et tout lié.com.
Bonjour Daniel, c'est Laurent de Nantes, AMEP, auditeur modeste et précaire. C'était pour annoncer le rassemblement des chômeurs et précaires qui sont en lutte le lundi 7 juin à 13h, place du Bouffay à Nantes. Bonne journée.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que on a appris que le groupe Casino avait l'intention d'ouvrir ses supermarchés le dimanche matin suite à une loi qui a été votée au mois d'août dernier. Alors nous, au supermarché de Quimper, on n'est pas du tout d'accord avec ce projet. Donc on a décidé de faire quelque chose sur le parking du magasin dimanche prochain, donc entre 10h et midi. Donc pour tous ceux qui ont envie de rester dans leur lit, peut-être au moins ce dimanche matin-là, ils pourraient venir nous soutenir pour faire une petite manifestation sympathique et familiale. Donc les enfants sont bienvenus avec des vélos et des ballons, juste pour montrer un petit peu ce qu'on a autre chose à faire le dimanche que de venir travailler dans une grande surface, et puis au détriment en plus des petits commerces qui eux ont un besoin vital de ces journées de vente là.
Voilà, merci pour ces messages, chers amis, chers auditeurs. Aujourd'hui, comme prévu, comme promis, c'est notre rencontre mensuelle avec l'équipe du Monde Diplomatique, enregistrée en public à la Java, à Paris, 105 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement. Et le musicien qui nous accompagne, c'est André Mainvielle, avec Alain Grèche, Laurent Bonelli, Serge Halimi. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je voulais t'appeler, en fait, pour te signaler que lundi est disparu un grand homme, en fait. Je suis allé aujourd'hui à l'enterrement à Biot. Il s'appelait Michel Cheval. C'était un homme qui a 35-40 ans avaient accueilli ici à bras ouverts les étrangers qui venaient travailler dans l'horticulture entre Nice et Antibes, et surtout cette horde de Portugais dont faisaient partie mes parents. Et il a toujours été là pour les bras ouverts, pour les accueillir, pour les intégrer dans la culture provençale qu'il adorait. Il faisait partie de l'amicale de Biot. Il a toujours été présent. Il s'est intéressé à la culture des autres. Et je me disais que s'il y avait plus de gens comme ça en France, on se comporterait mieux.
Un petit voyage à l'autre bout du monde, ça vous tente? Eh bien, pour les financiers du G20, oui. Aujourd'hui et demain, les ministres des Finances du G20 vont aller se promener à Busan, en Corée du Sud. Comment ça, se promener? Ils vont travailler, non? Eh bien, ça pourrait être vrai. Mais d'abord, c'est tout juste une réunion de préparation au sommet du G20 des 26 et 27 juin à Toronto. Et normalement, ils se réunissent principalement pour se mettre d'accord sur un projet de taxation des banques. L'Europe et l'Amérique sont pour, mais l'Inde, le Brésil, le Canada, entre autres, sont contre. Alors, que va nous dire notre marquise Lagarde? Eh bien, comme d'habitude, tout va très bien. Un truc du genre, nous ne sommes jamais allés aussi loin dans une avancée d'un préaccord allant vers une éventuelle prédécision pour une réunion future. Je me demande pourquoi il se déplace, à moins qu'il y ait des soldes en ce moment en Corée.
Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débarque et batterie des premiers pas dansés, elle vend des écoliers. Balancé dans l'air, sans avoir l'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'un but du soufflet qui s'est tiré, risé mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piquets bocs aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous d'en dit, dans des mondes où beau doux désir ici, efficace est à pas passer.
Salut, c'est Daniel Mermez, c'est là-bas si j'y suis en direct depuis la Java à Paris avec l'équipe du Monde Diplomatique. Je suis sûr également que le Tsahal que je connais, le Tsahal économe en vie humaine et adepte de la pureté des armes, cette armée non seulement ultra sophistiquée mais profondément démocratique dont j'ai salué maintes fois la conduite en temps de guerre avait d'autres moyens d'agir qu'en déclenchant ce bain de sang. Voilà quelques lignes pour introduire ce numéro du Monde Diplomatique de juin. Quelques lignes signées d'un confrère qui s'appelle Bernard-Henri Lévy dans son bloc-notes de cette semaine dans Le Point. Il faut dire qu'il arrange un petit peu les choses, mais la veille de l'attaque contre la flottille au large des eaux israéliennes, dans les eaux internationales, la veille même, Bernard-Henri Lévy avait fait une déclaration dans le Haaretz, sur le site en ligne du Haaretz, se félicitant de connaître cette armée qui ne pouvait comparer à rien, tant elle était à la fois démocratique et s'opposant en permanence des questions. Pourquoi je commence comme ça? C'est parce qu'on a avec nous Alain Grèche, qui fait partie depuis longtemps de l'équipe du Monde Diplomatique, et qui n'est pas présent dans ce numéro du mois de juin. Voilà, c'est comme ça, on va commencer par ne pas parler du Monde Diplomatique du mois de juin, mais on va parler du blog, du site du Diplo, dans lequel Alain a tout de suite donné une analyse et surtout une description de ce qui s'est passé ces jours derniers, au large donc des eaux de Gaza. Alain Grèche.
La déclaration de Bernard-Henri Lévy indique je dirais une manière de voir les événements qui est toujours quand même, quand on parle du conflit israélo-palestinien, qui m'étonne toujours. C'est-à-dire que une telle action commise par les Chinois contre une flotte internationale, par n'importe quelle autre puissance, susciterait l'indignation de Bernard-Henri Lévy. Mais là, on a une espèce de mansuétude. Je dirais d'ailleurs même, je rappelle aux auditeurs quelque chose qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'au moment de l'invasion de Gaza en décembre 2008, Bernard-Henri Lévy était entré dans Gaza sur un char israélien. C'était la nuit, donc il disait, je ne voyais pas très bien, mais la ville, elle n'est pas vraiment détruite, elle est simplement sonnée. Et je m'étais dit, mais c'est un peu comme si en 1937, après le bombardement de Guernica, il y avait un journaliste qui avait dit, oh, vous savez, bon, on a tué un peu de gens, mais c'est une ville sonnée, ce n'est pas une ville détruite. On est vraiment dans quelque chose de très particulier, parce que ce à quoi on a affaire, c'est deux choses. C'est un acte de piraterie internationale commis par l'armée israélienne, je veux dire, par toutes les définitions possibles, mais c'est surtout une mise en lumière du fait qu'on a un territoire qui s'appelle Gaza, qui est un tout petit territoire, qui vit dans des conditions épouvantables, et qui, depuis 3 ans, est soumis à un blocus. Un blocus que tout le monde condamne. Même les États-Unis, l'Union européenne, tout le monde dit qu'il faut le lever, et personne ne le lève. Et tout le monde trouve ça normal. Et quand il y a une flottille internationale qui essaye d'apporter de l'aide, c'est à la fois elle essaie d'apporter de l'aide, mais c'est vrai aussi qu'elle fait, si on peut dire, de la propagande, c'est-à-dire qu'elle veut remettre au centre de l'actualité la situation insupportable que vivent les Palestiniens. Quand ça se passe, à ce moment, il n'y a, enfin, de la part, en tous les cas, de nos gouvernements, pas de réaction. Mais encore une fois, je veux dire, quand on parle de Bernard-Henri Lévy ou de notre ministre des Affaires étrangères, M. Bernard Kouchner, qui se glorifie de son passé de French Doctor, d'avoir apporté dans des conditions difficiles de l'aide à des populations qui vivaient dans des conditions effectivement épouvantables, pourquoi tout ce qui s'applique, encore une fois, ailleurs ne s'applique pas quand on parle des Palestiniens ?
Oui, mais quand même, on a un navire turc, c'est sur ce navire que s'est concentrée l'attaque, qui était dirigé par une ONG islamiste. Mmh. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cet islamisme-là, Alain ?
C'était une ONG musulmane. Je veux dire, quand le Secours catholique apporte de l'aide aux Afghans ou aux Bosniaques, personne ne dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le Secours catholique ?» C'est vrai que le gouvernement turc a joué un rôle très important. Et il y a une très forte mobilisation en Turquie. Mais rappelons que la Turquie est un allié stratégique d'Israël depuis 1949, que l'armée israélienne et l'armée turque ont coopéré depuis très longtemps. Qu'il y a un discours, je dirais, du gouvernement turc pour condamner toute forme d'antisémitisme qui est beaucoup plus radical, si on peut dire, que ce qu'on peut entendre des fois dans le monde arabe. Donc, cette présence des Turcs est plutôt quelque chose de positif. C'est-à-dire, effectivement, c'est des gens qui ne mettent pas... Enfin, eux, c'est pas des gens qui mettent en cause l'existence de l'État d'Israël. C'est, encore une fois, des gens qui veulent apporter une aide à une population qui souffre.
Votre point de vue sur les réactions internationales, réactions européennes, françaises, américaines, États-Unis, Nations Unies?
Je voulais dire, en un mot, c'est un scandale. Parce qu'on a une vraie campagne de désinformation concernant ces positions, y compris celles de notre propre gouvernement. On dit, le Conseil de sécurité a adopté une résolution qui demande la création d'une commission d'enquête. C'est un mensonge. Le Conseil de sécurité n'a pas été capable de se mettre d'accord sur une résolution. Donc on a eu une simple déclaration du président du Conseil de sécurité, ce qui a beaucoup moins de poids. Deuxièmement, la déclaration stipulait qu'il y aurait la création d'une commission d'enquête. Les Américains ont refusé qu'il y ait une commission d'enquête internationale. Donc on a simplement une commission d'enquête qui est demandée au gouvernement israélien. Et demain, sans doute, le gouvernement israélien va faire une commission d'enquête et l'affaire va être noyée. Et surtout, il n'y a aucune mesure. Encore une fois, la question essentielle, c'est pas qu'est-ce qui s'est... Enfin, ce qui s'est passé sur le bateau est important, mais c'est le blocus de Gaza. Est-ce qu'il y a un gouvernement prêt à prendre des mesures concrètes pour lever ce blocus ? Je veux dire, on pourrait suggérer à notre ministre des Affaires étrangères, là aussi en s'appuyant sur son expérience, pourquoi le gouvernement français n'affrète pas lui-même des bateaux avec d'autres gouvernements européens pour aller porter secours à Gaza ? Voilà une chose, comme ça on ne dirait pas c'est les islamistes, c'est manipulé par le Hamas, etc. Ça serait un geste fort qui montrerait que, indépendamment de toute question politique, et les questions politiques du conflit israélo-palestinien sont compliquées, indépendamment de ça, la situation faite à Gaza est insupportable. Or, aujourd'hui, le discours occidental, c'est-à-dire européen et américain, est inverse, c'est de dire « Bon, tout ça, c'est pas très important, l'important, c'est que Israéliens et Palestiniens négocient. » Or, on sait très bien que dans ces conditions, les négociations n'aboutiront à rien, mais que la situation à Gaza perdurera comme elle est aujourd'hui.
L'élection de Barack Obama avait donné des espoirs concernant la situation entre Israël et la Palestine. Où en sont ces espoirs ?
Écoutez, j'ai devant les yeux une déclaration qu'a faite aujourd'hui M. Joe Biden, qui est vice-président des États-Unis. Je cite, « Israël a le droit absolu de s'occuper de ses intérêts de sécurité et elle a le droit absolu de contrôler les bateaux qui sont dans les eaux internationales. » Donc, c'est vrai qu'il y a eu un changement du discours Obama par rapport à la période Bush. C'est vrai, je pense qu'il y a une prise de conscience par un certain nombre de responsables américains et sans doute par Obama plus que par d'autres, que de la nécessité de résoudre ce conflit israélo-palestinien, moins pour des raisons de sympathie avec la Palestine, que l'idée que ça devient un conflit qui nuit aux intérêts des Américains. Il y a eu récemment, vous savez, le chef du CENTCOM, qui est l'armée, le général Petraeus, qui commande les troupes américaines en Irak et en Afghanistan, qui a dit « ce conflit israélo-palestinien met en danger la vie de nos soldats ». Et c'est intéressant de savoir que hier, le chef du Mossad, c'est-à-dire le service de renseignement israélien, a fait une déclaration en disant, devant la commission des affaires étrangères du Parlement israélien, en disant « nous sommes en train de devenir de plus en plus un fardeau pour les Américains et pas un atout ». Et ça, je dirais, c'est peut-être ce qui peut faire évoluer la situation. Mais pour l'instant, malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué concrètement en tous les cas.
Alors dans le papier que vous donnez sur les blocs du Diplo, vous allez plus loin, là, vous donnez des pistes. La France pourrait faire un certain nombre de choses. Est-ce que vous voulez revenir là-dessus ?
Oui, juste un mot. C'est Monsieur Hervé de Charette, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, a interpellé le gouvernement en disant, en gros, vous ne faites rien sur le conflit israélo-palestinien. Et la réponse du ministre, je l'ai trouvée extrêmement pathétique, parce que Monsieur Bernard Kouchner disait, écoutez, si vous avez des suggestions, faites-en. Et alors, j'explique que un certain nombre de ces propositions qui pourraient être faites, une, c'est celle que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on affrète des navires pour Gaza. Monsieur de Charette proposait que l'Union européenne prenne en charge le port de Gaza et qu'à travers le port de Gaza, on achemine l'aide internationale sous le contrôle de l'Union européenne pour éviter, évidemment, qu'il y ait des armes ou des roquettes qui arrivent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Israël ne paye aucun prix pour son occupation. Rien. Comme en plus la situation entre guillemets militaire est assez stabilisée, qu'il n'y a plus d'attentats, etc., c'est que le gouvernement, malheureusement pas seulement le gouvernement, le peuple israélien peut très bien vivre dans cette situation. Donc s'il n'y a pas un prix à payer à cette occupation, ça risque de continuer. Et puis il y a un autre problème qu'on n'a jamais abordé, et je trouve qu'on devrait l'aborder. Vous savez qu'il y a le soldat Gilad Shalit qui est emprisonné à Gaza, et je pense que, comme toute forme de prise d'otage, c'est quelque chose qu'il faut refuser, même si on peut dire qu'il y a 7000 ou 8000 prisonniers politiques palestiniens. Mais c'est un vrai problème que des citoyens français disposant de passeport français fassent leur service militaire dans une armée d'occupation. Ça, c'est aussi un problème. Et je disais tout à l'heure, dans un de ces envois au blog, le ministre français a fait une première déclaration après les événements de la flottille pour dire qu'il n'y a pas de citoyens français qui ont été tués. Et moi, j'ai posé la question, mais est-ce qu'il y a des citoyens français qui ont été parmi ceux qui ont tué ? Est-ce que dans ces commandos de l'armée israélienne, est-ce qu'il y a des citoyens français ?
Ce serait possible.
C'est tout à fait possible. Et je pense que ça pose un problème. Le problème, vous savez, en France, vous avez le droit de choisir de faire éventuellement votre service militaire dans votre pays d'origine ou non. Par exemple, les jeunes Algériens peuvent décider de le faire s'ils le souhaitent en France. C'est un choix qui est tout à fait normal. Autre chose, c'est pas le fait de faire son service militaire en Israël, c'est d'être, par exemple, en Cisjordanie, que la France considère comme un territoire occupé, que les Nations Unies considèrent comme un territoire occupé, et donc de mener des actions illégales. Et que c'est des citoyens français qui mènent des actions illégales, et que ça, là aussi, le gouvernement français pourrait faire quelque chose.
Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette histoire ? Oui, attendez, on va vous donner un micro.
J'aimerais savoir quelle est l'analyse géopolitique que vous faites de la montée en puissance de la Turquie dans cet épisode-là, en dehors du fait qu'il y a un bateau.
Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, on a l'émergence d'un rôle de la Turquie, qui est liée aussi à son développement économique. C'est pas particulier à cette région. Je veux dire, on sent bien aujourd'hui, avec la montée du Brésil, de la Chine, de l'Inde, qu'il y a de nouvelles puissances qui jouent un rôle important. Mais par rapport à une autre période, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ces puissances, en particulier la Turquie, qui joue ce rôle de plus en plus actif, comment dire, c'est pas des ennemis des Occidentaux. C'est même pas des ennemis des États-Unis. Vous savez que la Turquie, elle est membre de l'OTAN. Elle est alliée à Israël, je l'ai dit. Donc, il y a tout cet aspect. Et en même temps, ils veulent jouer un rôle indépendant. Et au départ, c'est-à-dire là, les relations avec Israël se sont beaucoup dégradées. Mais ils souhaitaient jouer un rôle de pont entre notamment la Syrie et Israël, ou entre les Palestiniens entre eux pour essayer d'obtenir une réconciliation nationale entre le Hamas et le Fatah, ou entre les Palestiniens et Israël. Donc il y a un rôle croissant, il y a une popularité maintenant de Erdogan, le Premier ministre, dans le monde arabe et musulman qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, mais pour que ce rôle se transforme de manière positive, encore faut-il que du côté israélien, il y ait un interlocuteur, mais
C'est vrai que, si vous voulez, dans cette crise actuelle, la seule perte concrète pour Israël, au sens pas seulement le prestige, c'est la mise en cause de la relation israélo-turque qui inquiète une partie de la classe dirigeante israélienne.
D'autres questions là-bas ? Oui, monsieur ?
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le bateau irlandais qui fait route sur la bande de Gaza actuellement, avec notamment à bord un prix Nobel ?
Je dirais, normalement, il devrait arriver, je crois, en fin de semaine dans les eaux de Gaza, s'il arrive. C'est un autre bateau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à dire de supplémentaire. Moi, ce qui me frappe quand on parle aujourd'hui du conflit israélo-palestinien, c'est à la fois l'impuissance ou la volonté de ne rien faire des gouvernements, notamment européens et américains, mais aussi une mobilisation très nouvelle des opinions publiques. Et je veux dire, ce qui s'est passé à Gaza, je veux dire, ceux qui ont suscité cette crise et cette prise de conscience, c'est ce qu'on appelle la société civile. Et ça, je pense que sur la question palestinienne, il y a aujourd'hui une vraie mobilisation extrêmement diversifiée de solidarité avec la Palestine. Et une des choses qui est intéressante, c'est le gouvernement équatorien qui a retiré son ambassadeur en Israël. Hier, le Nicaragua a rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Le Venezuela l'avait fait, je crois, la Bolivie aussi. On est dans une situation où cette cause palestinienne devient une cause universelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement la cause des Arabes ou elle n'est pas la cause des musulmans, elle est une cause universelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces formulations de dire pro-palestinien ou pro me semblent tout à fait déplacées. Je veux dire, ce qui se joue en Palestine, c'est pas, enfin bien sûr c'est l'avenir du peuple palestinien et des Palestiniens, mais c'est les principes du droit international. C'est les principes dont il faut dire, c'est les principes dont les Européens se prévalent, dont l'Occident se prévale, qui sont les principes des droits humains, de la démocratie, etc. Principes qui sont tout à fait respectables, mais il faut les appliquer à tout le monde. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on demande à ce qu'ils s'appliquent à la Palestine.
Voilà, on a beaucoup d'autres sujets à aborder. Le musicien du jour, c'est André Mainviel. J'ai demandé tout à l'heure à Antoine Chao comment on va présenter André Mainviel, un proche de Bernard Lubat. Et on s'est dit, voilà, un musicien multi-récidiviste.
Oh, c'est
ça va, André ?
C'est super.
Voilà, allons-y.
Alors, pour l'article 2 de la Constitution française. Prends-le pour tout bout, cap à gauche, cap à droite. Prends-le pour tout bout, sin vergogne qu'à l'endret. L'alène et le joc est à quatre secondes au putz. Pachic et pachoc du custat de Santa Cruz. Prends-le pour tout bout, sperant à ser camparadier. Prends-le pour tout bout, sperant à us empundage. Sur le caminau de la rue au Talagund. Contus cuminaus de la rue d'Incalempun. Si y en a da plavesina, canto cumbia campesina. L'aranès une eau latine. Parle gascun alegria, oh ya, oh ya, oh ya, minoritas en barraglie, a boca de noi saraglie, quan las vites s'acaballe, a gin de calio parpaglie. Bim bop, jubi du bodum, bon, ja ni veu que vu feia santo un beu, jo bau, 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 valiria de da di, da 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 da, coquim, bebi, jo bom, bau. Bebendo, dando, trento, que bati com um mano no banano, na linha de dado, já vundo, opa, pai, na linha de dado, da, 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 Prelu porto buts capa gauche capa dret. Prelu porto buts in vergogne calandret. Dale nelu gioca sta cazzo hundu putz. Pachic e pachoc du custa de Santa Cruz. Prelu porto buts per ana cerca paradje. Prelu porto buts per ana usen pundage. Slu caminau de la rue o talagunt. Puntus comunau de la rue din calempun. Si ana da plavesina. Canto cumbia campesina. L'aranès une eau latine. Parle gascun alegria, oh ya, oh ya, oh ya, minorita zembaraglie, a boca de noi saraglie, quan las vites s'acabaie, a gin de caliau parpaie.
André Mainviel, avec le numéro du Monde diplomatique de ce mois de juin, et qui présente un dossier important sur l'argent et la politique. Et le diplo se demande si ceux qui signent les chèques vont continuer longtemps à écrire les lois. Le rapport entre l'argent et le politique, il y a toute une série de papiers. Le triomphe de l'oligarchie, c'est le titre général, avec un papier dont nous parlera Serge Halimi dans un instant, le gouvernement des banques, et puis un papier signé de Laurent Bonelli, la mécanique clientéliste. Il y a beaucoup d'autres sujets dans ce dossier. Laurent ?
Oui, alors je vais plutôt essayer de présenter l'économie générale de ce dossier. On a essayé de s'intéresser aux différentes dimensions qui relient la question de l'argent et de la politique. Alors, les différentes dimensions, c'est-à-dire qu'il y a historiquement la démocratie, enfin, l'avènement de la démocratie, est lié à la séparation du pouvoir politique et du pouvoir économique. Bon, rappelez-vous, en France, le suffrage censitaire, c'était tout simplement les gens qui payaient un impôt, qui pouvaient voter, qui pouvaient être élus. Et finalement, l'instauration du suffrage universel, c'est-à-dire à la fois non seulement que tout le monde puisse voter, mais alors les femmes plus tard que les autres, évidemment, mais que tout le monde puisse voter et que tout le monde puisse se présenter, ça a été un long combat qui a précisément séparé, à un moment donné, le pouvoir économique qui était exercé par un certain nombre de groupes sociaux et le pouvoir politique qui allait être de plus en plus dévolu à ce qu'on appelait les démocrates à l'époque, c'est-à-dire des nouveaux groupes sociaux, les couches nouvelles, par exemple, qu'appelait Gambetta en France. Donc, cette séparation, elle s'est faite comment ? Elle s'est faite, tout simplement, en permettant à ce que la politique devienne un métier. C'est-à-dire, c'était toute la question de la professionnalisation de la politique, c'est-à-dire, il fallait pouvoir vivre de la politique, et vivre de la politique, c'était instaurer un mandat parlementaire. Et là-dessus, il y a tout un article de Alain Garrigou qui traite cette question de l'instauration lente et progressive d'un mandat parlementaire qui permet de séparer, finalement, l'exercice de la politique de ce que possèdent, finalement, un certain nombre de groupes qui leur permettaient d'exercer cette politique jusque-là. Alors, évidemment, ça, je dirais, c'est de l'histoire, mais la question du lien argent et politique, elle n'est pas résolue avec cela. Je veux dire, il existe toujours des relations incestueuses entre l'argent et la politique. Comme, je dirais, en atteste la récurrence de la corruption, par exemple. Et on a un article dans ce dossier d'un journaliste espagnol, Andreu Manresa, qui a travaillé sur les Baléares. Et dans cette magnifique île méditerranéenne, je veux dire, on se retrouve avec, effectivement, une corruption qui est liée sur fonds de spéculation immobilière. Et il prend l'exemple d'un petit parti, qui s'appelle Unió Mallorquina, qui est un parti qui, en fait, va être dans une situation très particulière, puisque c'est lui qui va permettre de faire les majorités politiques sur la communauté autonome des Baléares. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de voix, 7% des voix, mais c'est eux qui vont décider si c'est le Parti populaire de droite qui gouverne ou le Parti socialiste ouvrier espagnol de gauche qui gouverne. Et on va voir que ce petit parti va finalement négocier sa participation très bien en prenant des prébendes sur l'ensemble de l'industrie touristique. Et c'est un papier assez amusant, précisément, sur qui montre comment se fabrique une mécanique de corruption avec, y compris, un parti qui prend des commissions sur les cercueils, sur les concessions funéraires, sur les hôpitaux, sur tout cela. Bon, c'est une histoire qui finit mal, puisque l'ensemble de ses dirigeants finissent en prison. Bon. Alors, ça, c'est un aspect, je disais, la corruption, c'est l'un des éléments importants du lien qui existe entre l'argent et la politique. Un autre qui vient juste derrière, c'est la question du clientélisme, sur laquelle j'ai écrit moi-même. Alors, le clientélisme, c'est l'achat, notamment, de voix. Alors, ça marchait très très bien au début du siècle. Hein. Vous reprenez les élections au début du siècle, vous avez effectivement des députés qui achetaient tout simplement les voix. Quand Serge Dassault, Corbeil-Essonne, essaie de faire la même chose en 2009, il est invalidé par le Conseil d'État. Alors, la question du clientélisme, c'est une question qu'on voit un peu partout. Ce que j'essaie de poser dans le papier, c'est de réfléchir un petit peu sur le clientélisme qui est systématiquement condamné alors comme pratique antidémocratique, pré-démocratique. Bon, c'est valable au XIXe siècle. Ou alors, nous dit-on, et ça on le lit régulièrement dans la presse, c'est valable pour les autres, quoi, les systèmes pré-démocratiques. Alors les Grecs, par exemple, et puis les Africains, bien sûr, et puis les Latino-Américains. Et j'ai repris les travaux qui ont été menés notamment sur l'Argentine, où on voit comment le péronisme fonctionne dans les quartiers les plus populaires, qui sont les villas miserias, qui sont des espèces de bidonvilles, comment la structuration politique de ces quartiers, sur base de clientélisme, c'est-à-dire on distribue des vivres, on distribue des biens, on distribue un certain nombre de choses, ne fait pas que cela. Structure aussi de l'idéologie, du rapport au monde, à la politique. C'est-à-dire comment le clientélisme peut être, dans certains cas, une manière de montrer que la politique, ça peut changer les choses. Et je crois que montrer concrètement que la politique peut changer les choses, ça doit nous poser des questions à nous, occidentaux, quand on a, dans des milieux populaires, des taux d'abstention qui, aujourd'hui, frôlent les 60-70% dans un certain nombre de quartiers. Je crois que c'est là-dessus que j'ai essayé de réfléchir. Alors, pour continuer dans ce magnifique tunnel, je dirais, je crois que la question, si vous voulez, donc, de la démocratisation et de l'argent, on a condamné la corruption, on a condamné le clientélisme, et il y a eu tout un tas de réactions
je dirais historiquement, contre ces formes de relations incestueuses, pourrait-on dire, entre l'argent et la politique. C'est venu de la justice, par exemple, et il y a un très bel article d'une journaliste italienne qui s'appelle Francesca Lantini, qui a travaillé sur l'opération Main Propre. L'opération Main Propre, certains s'en souviennent peut-être, elle avait été lancée en 1992 en Italie, et elle a emporté, c'est-à-dire les offensives judiciaires, ont emporté l'essentiel de la classe politique italienne. C'est-à-dire qu'on a eu Bettino Craxi, qui était président du Conseil, qui est allé en prison, on a des ministres, des sénateurs, ce sont des milliers de gens qui ont été mis en examen, et ça a pratiquement balayé la première République italienne et les principaux partis de l'époque. Bon, elle est revenue 20 ans après interroger ces magistrats, qui aujourd'hui donnent plutôt un sentiment assez désabusé, finalement, puisque c'est aujourd'hui Berlusconi, ça a été le vote d'un certain nombre de lois qui ont organisé l'impunité parlementaire en matière judiciaire pour un grand nombre de responsables, etc. Alors, c'est cela, c'est la justice, bon, qui peut être une sorte de garde-fou vis-à-vis de la corruption, ça peut être le renouvellement des élites. Alain Grèche, qui a écrit dans ce dossier, montre notamment comment le renouvellement des élites égyptiennes, derrière notamment les officiers avec Nasser, ont jeté à bas l'ancienne oligarchie égyptienne pour précisément lutter contre sa corruption. Et comment finalement le système se reproduit dans une certaine mesure et ces anciennes pratiques peuvent arriver à se reproduire sous des formes nouvelles plus tard. Bon, ça peut être ça. Ça peut être également des formes de pays qui ont fait un choix. On reproche souvent au monde diplomatique d'être déprimant ou d'être déprimatique. Non, mais c'est une critique fausse. Vous avez l'exemple. Vous avez ici l'exemple de la Norvège, par exemple, ou comment, je dirais, vous avez l'organisation de la règle des vies démocratiques en Norvège, permet, par exemple, une immense transparence quant aux revenus et au patrimoine des élus, de l'ensemble des citoyens. Comment vous avez un accès à la vie politique qui, précisément, est socialement beaucoup moins sélectif que dans d'autres endroits. Bon, vous avez un certain nombre de contre-exemples qui permettent de montrer que, si vous voulez, le triomphe de l'oligarchie dont on a parlé n'est pas mécanique, n'est pas obligatoire. Il y a des manières de le contenir. Alors, et c'est la dernière partie de ce dossier, c'est que cette question aujourd'hui se pose, dire de manière un peu différente, quand on s'intéresse alors soit à des institutions internationales, et là François Ruffin, que vous connaissez bien là-bas chez Issui, a fait une très jolie enquête sur les lobbies à Bruxelles. Il montre parfaitement comment, dans des espaces où finalement le débat démocratique existe très peu, où les électeurs sont très lointains, certains groupes de pression, et pas n'importe lesquels, des groupes de pression industriels, je dirais, arrivent précisément à faire les lois et à faire dans une grande mesure des réglementations qui sont complètement conformes aux intérêts de leurs mandants. Et ça pose la question également des relations qui existent aujourd'hui, et je crois qu'on a en France un certain nombre d'exemples avec le passage d'un certain nombre de ministres ou d'épouses de ministres de la fonction publique vers le privé, avec ces pantouflages, avec cette circulation de plus en plus fréquente des élites politiques vers le privé. Ça pose une question que souligne Alain Garrigou dans son article, c'est que la professionnalisation, ça a été une manière d'arracher la politique à l'argent. Et en même temps, le fonctionnement aujourd'hui de la professionnalisation politique, qui fait des campagnes de plus en plus chères, qui devient de plus en plus difficile, jette un petit peu ces nouveaux politiciens professionnels dans les bras, précisément, des groupes qui ont de l'argent. Et ça, c'est particulièrement caricatural dans le cas des États-Unis, dont a parlé Serge.
Il court, non, c'est pas de furet. Il court, non, c'est pas de furet. Il court, non, c'est pas de fugé. Droit de vendre, il vend, trafiquant, Berlin. Sans froid, sans frais, sans cesse, opère, jachère, machine, coursier, courtier, chers amitiés, lâchez, payez les petits papiers, j'achète, m'achète, manage, mainage, manège, la course aux anonymes, économie, même unanime, fric, frime, je dis non, je préfère, les clowns aux clones, c'est le crack des bourses, et le crack des bourses, c'est des villes.
André Mainvielle, merci. Lien entre l'argent et le pouvoir, entre l'oligarchie financière et l'oligarchie politique, il est arrivé quelquefois, quelques rares fois, que la puissante oligarchie financière soit encadrée, soit jugulée. Mais c'est très rare et ça n'est certainement pas le cas aujourd'hui. Serge Halimi s'est penché sur le cas des États-Unis où les relations entre la politique et la finance prennent parfois des tours étonnants.
Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a eu une décision de la Cour suprême en 1976 qui a fait voler en éclats toutes les restrictions au financement des campagnes politiques par des groupes industriels en partant du principe « money égale speech ». Donc l'argent, c'est la liberté d'expression. Et la Cour suprême a estimé que le moyen pour des grands groupes industriels ou pour des riches de s'exprimer, c'était de financer les campagnes. Et que dès lors qu'on contingenterait trop brutalement ce financement des campagnes, on remettrait en cause la liberté d'expression garantie à chaque citoyen américain au terme des premiers articles de la Constitution des États-Unis.
C'est dommage que Noam Chomsky soit parti, lui qui est tellement attaché à la liberté d'expression. Là, il y a un détournement de ce à quoi il nous convainc d'adhérer, l'idée de la liberté d'expression. Et là, il y a un détournement pervers au nom de la liberté d'expression. Voilà ce
oui,
qu'on
mais
peut...
il l'a évoqué lors de la réunion qu'on a organisée à la Mutualité, en expliquant que la grande perversité de l'arrêt de la Cour suprême, c'est d'assimiler les individus et les entreprises. Dire que les individus ont le droit de s'exprimer, c'est une chose, mais dire que les entreprises, comme les individus, ont le droit de s'exprimer et que leur forme d'expression, c'est la contribution aux campagnes électorales, évidemment, tout ça conduit à la prévarication la plus absolue. Et l'un des exemples qui m'a intéressé dans l'article que j'ai fait donc sur les États-Unis, je suis tombé dessus par un hasard assez extraordinaire en feuilletant dans mes notes, dans mes articles. Je suis tombé sur un article du Washington Post de février 1997 qui racontait comment Clinton avait financé sa campagne de réélection. Alors à l'époque, l'article était intéressant, mais aujourd'hui, il l'est encore plus. Donc cet article indiquait que pour financer sa campagne de réélection, ça c'est une chose relativement connue, Clinton avait proposé au plus gros donateur de sa campagne de venir passer une nuit à la Maison-Blanche. Vous faisiez une très grosse donation, 5 000 $, 10 000 $, et on vous disait, écoutez, venez à la Maison-Blanche et passez une nuit. Bon. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens pour qui c'était un fantasme absolu de passer une nuit. Mais pour d'autres, pour des groupes industriels, il y avait plus intéressant que ça. Et justement, alors pour ces groupes industriels, on avait prévu autre chose. On avait prévu ce qu'on appelait des coffees à la Maison-Blanche, des rencontres autour d'un café, où ces groupes industriels viendraient plaider leur cause auprès du président des États-Unis, du ministre de l'Économie et des Finances ou du ministre du Commerce, selon les cas, avec, assistant à l'entretien, le responsable des finances du Parti démocrate. Vous comprenez l'allusion. En tout cas, eux, ils la comprenaient très bien. Donc, il y a eu 103 réunions comme ça, au cours desquelles les grands groupes industriels venaient plaider leur cause à la Maison-Blanche et, en sortant de la réunion, faisaient des dons de 5 000, 10 000, enfin des sommes assez considérables au Parti démocrate, ce qui a financé la campagne du président Clinton. Bon, ça, c'est intéressant. Mais il y a une chose qui m'a paru encore plus intéressante et que le journaliste du Washington Post ne pouvait pas savoir à l'époque en écrivant son article, c'est que l'une de ces rencontres, organisée le 13 mai 1996 précisément, réunissait le président Clinton, le ministre des Finances et les grands responsables des banques américaines qui étaient venus plaider leur cause auprès de l'administration. Qu'est-ce que demandaient ces responsables des banques ? Elle demandait que cesse cette séparation introduite par le New Deal et par une loi de Roosevelt signée en 1933 qui interdisait aux banques de dépôt de risquer l'argent de leurs déposants en spéculant sur les marchés financiers. Par le plus grand des hasards, quelques jours après cette réunion, un communiqué sort annonçant que la Maison-Blanche veut remettre en cause cette loi que maintenant vous avez tous entendu évoquer au moins une fois, la loi Glass-Steagall, qui interdisait donc aux banques de dépôt de spéculer sur les marchés financiers. 1999, le président Clinton signe cette loi qui abolit donc les dispositions prévues par Glass-Steagall. Et comme vous le savez, 2008, on estime qu'une bonne partie du krach financier qu'on a connu et dont les conséquences sont payées encore de nos jours ont été la conséquence de cette abolition de la loi Glass-Steagall. Donc on voit que c'est cette prévarication tout à fait légale, parce que ce qu'on vous raconte ici est évidemment tout à fait légal. Au terme des lois américaines, toutes les donations sont inscrites, enregistrées, et puis après, vous n'avez plus qu'à faire le lien entre les donations et puis les politiques publiques. entre les fonds que reçoit tel sénateur et la loi qu'il a introduite devant le Sénat, qui va dans le sens des intérêts du groupe industriel qu'il a financé. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier aspect qui me paraît quand même assez significatif de ce débat sur l'oligarchie, les financements politiques et la corruption de la politique. Le deuxième aspect, c'est évidemment la corruption des politiques eux-mêmes. Alors, Laurent Bonelli évoquait tout à l'heure le cas des pantouflages. Bon, alors, les pantouflages, il y en a un très grand nombre aux États-Unis, où il n'est pas rare qu'un ministre des Finances ait été précédemment patron d'une banque. C'était le cas de Robert Rubin, qui était patron de la Goldman Sachs, qui est devenu ministre des Finances de Clinton et qui a pris un certain nombre de dispositions favorables aux banques d'affaires comme la Goldman Sachs. Mais ça a été le cas aussi du ministre des Finances de George Bush, Paulson, qui lui aussi avait été patron de la Goldman Sachs. Et coïncidence, là encore une fois, à un moment, Paulson a décidé de sauver deux banques dont la Goldman Sachs dépendait. Et puis à un autre, il a décidé de sacrifier une banque qui, elle, était la concurrente de la Goldman Sachs. Mais évidemment, c'est la coïncidence la plus absolue. Donc il y a ce réseau, ce lien permanent entre public-privé, qui était assez caractéristique des États-Unis, dont on se gaussait beaucoup. Mais il faut voir que maintenant, ça devient une pratique française tout à fait habituelle. On rapporte même à plusieurs reprises que Nicolas Sarkozy aurait dit « Moi, je fais président pendant 5 ans, et puis après, je gagne de l'argent. Regardez ce qui s'est passé avec Clinton. Il gagne beaucoup d'argent. » Et de fait, Clinton gagne beaucoup d'argent, puisqu'il raconte lui-même que le mois qui a suivi son départ de la Maison-Blanche, c'est-à-dire février 2000, puisque son mandat s'est terminé le 20 janvier 2000, il a gagné autant d'argent, donc en un mois, que pendant ses 53 années de vie antérieure.
Et c'était un mois de 28 jours.
Et c'était un mois, et exactement, comme le dit Laurent, comme c'était février, c'était donc bien 28 jours. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fait des discours maintenant, et il les facture 250 000 dollars, 300 000 dollars, 600 000 dollars. Il se trouve que ceux qui ont payé les plus gros honoraires pour ces discours, c'était des banques. Très souvent, c'était Goldman Sachs, c'était Merrill Lynch. Donc, c'était une forme de remerciement. Mais je disais, ça n'est pas quelque chose qu'on rencontre uniquement dans le cas des États-Unis, puisqu'en France aussi, M. Yves Galland, qui a été ministre français du Commerce, a expliqué qu'il n'avait aucun état d'âme, je le cite, à être devenu ensuite PDG de Boeing France, une firme concurrente d'Airbus. Pas d'état d'âme non plus pour Mme Clara Guémard, épouse de M. Hervé Guémard, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle, après avoir été fonctionnaire à Bercy, puis ambassadrice itinérante déléguée aux investissements internationaux, elle est devenue présidente de General Electric France. Conscience tranquille également dans le cas de Mme Christine Albanel, elle qui était là beaucoup plus récemment, comme ministre de la Culture et de la Communication, puisque depuis avril 2010, c'est-à-dire depuis il y a 2 mois à peine, elle dirige toujours la communication, mais la communication de France Télécom. Donc vous avez ce deuxième aspect qui est le fait que vous profitez des contacts que vous avez établis dans la vie politique pour faire de très bonnes affaires et obtenir de très bonnes rémunérations.
Et Jean-Charles Naouri, on l'a oublié.
Exactement, qui a été l'architecte, le pilote de la déréglementation financière lancée en France par les socialistes et qui après a utilisé au mieux les règles qu'il avait lui-même élaborées pour devenir patron d'un certain nombre de sociétés privées et qui est à l'heure actuelle le PDG de Casino. Mais il y a un dernier aspect qui me paraît important, et puis après j'en ai fini, c'est le fait que ce pantouflage ne s'explique pas uniquement par le désir de gagner de l'argent. C'est aussi maintenant la réalisation par certains politiques que la finance est vraiment le secteur où on fait des choses, où se font des choses, où les gens ont un vrai pouvoir. Et j'étais très frappé d'entendre il y a quelques semaines sur France Info le témoignage d'Alain Juppé qui commentait en quelque sorte la dégringolade financière et à qui on disait « Mais vous, à droite et ailleurs aussi, vous avez été fasciné par l'argent à une période. Vous portez votre part de responsabilité dans ce qu'on est en train de vivre. » Et Alain Juppé, très franchement, faisait le témoignage que je cite « Nous avons tous été fascinés. »
Enfin, nous avons tous été fascinés, y compris, pardon, les médias. Les Golden Boys, c'était formidable. Ces jeunes gens qui arrivaient à Londres, qui étaient là devant leur machine et qui transféraient des milliards de dollars en quelques instants, qui gagnaient des centaines de millions d'euros tous les mois. Tout le monde était fasciné.
Tout le monde était fasciné. Et il ajoutait...
Je ne serais pas tout à fait sincère si je niais que de temps en temps, peut-être au fond de moi-même, je me suis dit, tiens, si j'avais fait ça, peut-être que...
Si j'avais fait ça...
Je serais dans une situation différente aujourd'hui.
Peut-être que je serais dans une situation différente aujourd'hui. Fin de citation.
On demande un petit intermède à notre musicien récidiviste.
Alors...
Entrez ma vielle.
Barataclao, ça veut dire fermer à clé. Et ça fait comme ça. Mais où est donc Ornicard ? Nous sommes tous allés voter. Pensant bien qu'à l'Assemblée, on fait les lois pour l'équité. Où sont donc, monsieur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez ? Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé. Barataclao, 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 barataclao. L'histoire se passe à notre insu, barataclao. Dans les salons les plus cossus, barataclao. On jette l'eau du bain avec l'ONU, barataclao. Voici la GCS et toute la clique. Pour mater le service public. On dit qu'il est caduc, inique. Pour les libéraux les plus cyniques, tout passe par l'économique. Comme on dit qu'on connaît la musique, ils nous créent des sigles qui compliquent. Pour que le quidam n'y comprenne quick, tout ça finit par laisser quoi ? Le temps est bien à l'argent roi. On dit que l'argent c'est du temps. On n'a plus le temps de prendre le temps. Mais où est donc Ornicard ? Nous sommes tous allés voter. Pensant bien qu'à l'Assemblée, on fait les lois pour l'équité. Sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez. Car force est de constater pour son bien fermé à clé. Barataclao, 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 fermé à clé.
Merci André Mabiel. Ok. Alors... Tout ça n'a aucune importance, tout ce qu'on vient de dire là n'a aucune importance parce que le 11 juin, qu'est-ce qui se passe le 11 juin ? Ah, voilà, vous le savez tous, ça c'est une nouvelle que nous connaissons tous à Johannesburg, la Coupe du Monde 2010 de football commencera le 11 juin et le monde diplomatique s'est préoccupé de ce grand moment et c'est David Garcia qui s'est penché sur ce grand moment et qui s'est intéressé aux intouchables parents du football mondial.
Donc, en effet, le 11 juin prochain démarre la Coupe du Monde de foot. C'est l'événement sportif le plus important de très, très, très loin. C'est un événement festif, paraît-il. C'est un événement télévisuel, médiatique, économique majeur. Et ce qu'on oublie parfois, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que cette compétition appartient à un organisme qui s'appelle la FIFA, Fédération Internationale de Football, qui a été créée en 1904 à Paris. Et cet organisme est un organisme pas tout à fait comme les autres, dans la mesure où on peut parler véritablement, et ça a été démontré à maintes reprises, d'organismes avec des pratiques, disons-le de façon un petit peu prudente, avec des pratiques mafieuses, avec des pratiques clientélistes, oligarchiques. Discutables, voilà.
Vous aussi, discutables.
Restons modérés tout de même.
Voilà.
Voilà. Cet organisme-là se porte très bien. Bon, on vit une période de crise mondiale. Il faut savoir que la FIFA ne s'est jamais aussi bien portée. Mmh. Elle a dégagé quelques 150 millions d'euros de bénéfices en 2009. Les droits payés par les télévisions du monde entier lui rapportent des centaines de millions d'euros. Et ce qui pose de plus en plus problème, car elle est de plus en plus critiquée, c'est son mode de fonctionnement. Corruption, clientélisme, mais en même temps, ça se fait dans une opacité, dans une discrétion assez remarquable.
Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de concret ?
Disons que le foot business a été inventé par la FIFA et ça date des années 70, ça date de la Coupe du Monde 1974. Mmh. Et à l'époque, c'est Adidas en fait qui achète l'élection du président de la FIFA. À l'époque, jusqu'en 74, on avait un Britannique qui s'appelait Stanley Rous, qui gérait, j'allais dire, un petit peu comme un bon père de famille, le football mondial. Ça rapportait un petit peu d'argent, mais pas trop. Et en 1974, Stanley Rous a en face de lui un Brésilien, fringant, qui dit le football, ça rapporte pas assez d'argent, il faut mettre de l'argent là-dedans. Donc il s'allie avec le patron d'Adidas de l'époque, Horst Dassler, qui achète des voix de représentants africains notamment, d'un certain nombre de pays européens, au bénéfice de Joao Avelange. Et c'est ça qui marque vraiment le basculement vers le foot business. Ça s'est évidemment accentué depuis cette époque.
Avec un succès formidable.
Un chiffre qui est symptomatique. Il y a plus de pays membres de la FIFA que de pays membres de l'ONU. C'est 207 pays. Voilà. Donc, d'une certaine manière, le foot est plus important, on pourrait dire, que la politique. Et le fonctionnement politique de la FIFA repose sur le principe d'un État, une voix. Et donc les élections des présidents de la FIFA se font grâce aux voix des petits pays qui sont plus faciles à acheter que celles de certains autres pays. Et notamment, on peut prendre l'exemple de la confédération américaine, d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord, qui s'appelle la CONCACAF, et qui est présidée par un personnage qui s'appelle Jack Warner, et qui est le bras droit de l'actuel président de la FIFA, qui s'appelle Joseph Blatter. Et c'est lui qui lui apporte sur un plateau les voix qui lui manquent.
Alors, oui, mais est-ce que la FIFA intervient sur les résultats des matchs? Ah, vous hésitez?
On peut pas tout leur reprocher. Bon, c'est pas leur propos. Leur préoccupation, c'est gagner le plus d'argent possible. Enfin,
pas de gagner des matchs, c'est de gagner de l'argent.
Oui, ils ont pas besoin. Je veux dire, c'est pas le problème.
Est-ce que c'est bon pour l'Afrique du Sud? Est-ce que ça a été bon les coupes du monde précédentes pour les pays où ça s'est déroulé?
Enfin, quand même. Il faut être juste. La FIFA fait quand même de gros efforts parce que la FIFA a dit aux pays d'Afrique, ne vous inquiétez pas, nous allons vous faire un cadeau, nous allons offrir à chaque pays africain un terrain de gazon artificiel. Et donc, l'Afrique du Sud aura son terrain de gazon artificiel. Non, plus sérieusement, les Sud-Africains ont eu une période où ils étaient assez enthousiastes, ils se disaient, on va avoir des retombées commerciales, ça va être super, c'est tout le discours habituel, ça va développer les infrastructures, le tourisme. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, la FIFA contrôle tout. C'est-à-dire que la FIFA a un certain nombre de sponsors, qui sont des sponsors FIFA, Coca-Cola, Adidas, qui sont les seuls à pouvoir contrôler le business de la Coupe du Monde. Donc autour des stades, il y a une espèce de sanctuaire réservé auquel n'ont pas accès,
Coca, oui.
Voilà, auquel n'ont pas du tout accès les commerçants locaux. Et donc là, il y a une espèce de fronde de révolte qui fait qu'ils sont complètement désenchantés. Ils vont gagner quasiment pas d'argent. Et en plus, il y a un nettoyage qui se fait dans les bidonvilles parce que on veut présenter un visage plutôt sympathique. Donc il y a des déplacements de population. Donc,
construit des murs, ça
voilà,
c'est classique.
Voilà, construit des murs. Donc on peut pas dire que la population en bénéficie. Évidemment que l'oligarchie locale, que les entreprises locales en bénéficient. Enfin, les grandes entreprises, les multinationales, mais les populations n'en bénéficient absolument non pas.
Merci. Alors on va demander à André Mainviel de clôturer cette rencontre.
Il court, non c'est pas le fauché. Et le footballeur. Moi pour ce qui me concerne, c'est le rugby. Et quand j'ai demandé à mon grand-père qui lisait le Monde Diplo, qu'est-ce qu'il en passait, il faisait toujours. Ah, putain. Faut dire que c'était un grand philosophe et qu'il avait lu la philosophie de Michel Platon. Je sais pas si vous connaissez comme philosophe Michel Platon, qui avait trouvé une des marques de la célèbre phrase « Connais-toi toi-même ». Goal ! Il court, non c'est pas le fauché, le spéculateur.
Bravo. Merci à l'équipe du Monde Diplomatique, merci à tous. On se retrouve à la rentrée prochaine. Et d'ici là, bonnes vacances à tous. Et lisez le Diplo et écoutez là-bas si j'y suis. Voilà 12 activités saines et qui vous mèneront loin. André Mainviel, merci. Merci à tous. C'était la dernière rencontre avec le Monde Diplomatique pour cette saison. Prise de son à la Java, Olivier Berotte. Merci à Antoine Chao, à John Centura pour l'organisation et le montage. Merci à Serge Alimi, Alain Grèche, Laurent Bonelli, David Garcia et André Mainviel, ainsi qu'à toute l'équipe de la Java. André Mainviel donnera un concert demain soir à 22h sur le front de mer de Saint-Nazaire, boulevard de Verdun, figurez-vous. Et un autre conseil de la base, j'y suis pour ceux qui sont dans la région parisienne. C'est aujourd'hui le début du festival Ta Parole à Montreuil. Au programme, entre autres, le grand retour des hurlements de Léo ou Batlick, que vous entendez parfois dans la base, j'y suis. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission de la base, j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Vous pouvez également réécouter sur labas.org, la-bas.org, et là aussi, vous avez de la place pour les coups de gueule et les coups de cœur à la technique aujourd'hui. Arnaud Caillet, Ludovic Asselot, Coy Nguyen, Raphaël Moutère ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebotte et Céline Rouzet, la chef du répondeur, attend vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Un dernier petit mot pour les à l'attention de nos amis des repères de là-bas, si j'y suis. Soyez gentils quand vous indiquez vos réunions, de faire court, car nous avons de plus en plus de messages. C'est bien, ça prouve qu'il y a de plus en plus de repères de là-bas, si j'y suis, mais de grâce, faites court si c'est possible. Réclame.
Bonjour, c'est Catherine Chabot. La mer est ma passion. Savez-vous que 80% des déchets retrouvés en mer proviennent de la terre ? Et pourtant, c'est si simple d'adopter les bons gestes en jetant, par exemple, nos déchets dans les poubelles appropriées. Parce que la mer est notre affaire à tous, je vous invite à la découvrir pendant les Journées de la mer, des lacs et des rivières, organisées partout en France du 4 au 8 juin.
Retrouvez le programme des manifestations sur www.lesjournéesdelamer.fr. Ceci est un message du ministère du Développement Durable et de l'ADEME, dans le cadre du Grenelle de la mer.
De plus en plus de gagnants loto, bonjour.
Est-ce que Gérard Abada peut gagner les 11 millions de ce samedi?
Je ne le connais pas, mais oui, bien
Très
sûr.
Très bien, bah je note. Alors Martina Baga, elle peut gagner aussi?
Oui, tout le monde peut.
Bon, je continue, Jean-Marc Abada. Balin.
Écoutez, vous n'allez pas me faire tout l'annuaire.
Attendez, c'est vous qui dites que tout le monde peut gagner. Oui. Alors, ça vous gêne pas qu'on vérifie, hein, quand même.
Oui.
Bon, alors, Paula Kamikalamara.
Loto, la chance appartient à tout le monde.
Non, à Kamikalaro.
Alors,
pardon.
Dépêchez-vous. Ce samedi, le jackpot est de 11 millions d'euros. Montant à partager entre les gagnants du premier rang. FTJ.
Voilà, et puis lundi, on part à Okinawa, au Japon, on reprend la balade japonaise, cette fois à Okinawa, c'est-à-dire tout au sud du Japon, pour évoquer les pages terribles, tragiques de l'histoire de cet endroit du monde, en 1945, il y a 65 ans. Il est 16h sur Inter, on se retrouve lundi à 15h pour la base, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin, salut.
Brice Hortefeux, condamné pour injure non publique à caractère racial. Le ministre de l'Intérieur devra verser 750 euros d'amende et 2000 euros de dommages et intérêts au MRAP. C'est ce qu'a décidé cet après-midi le tribunal correctionnel de Paris. Le ministre va faire appel de la condamnation. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Ce sont les mots du ministre alors qu'il posait pour une photo en compagnie d'un jeune militant d'origine maghrébine à l'université d'été de l'UMP. Une affirmation outrageante, sinon méprisante pour les personnes outragées. À relever le tribunal, le ministre va faire appel. Jean-Jacques Ayagon reconduit à la tête du château de Versailles, on vient de l'apprendre. Xavier Darcos, l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui visait le poste, n'a donc pas obtenu gain de cause. Quatre jours après l'interception par l'armée israélienne d'une flottille en route vers Gaza, la tension est toujours vive en Israël et dans les territoires palestiniens. Lors du prêche du vendredi, le chef du gouvernement du Hamas à Gaza a souhaité que ses convois continuent pour briser le siège. Le Rachel Corrie poursuit d'ailleurs sa route, ce bateau affrété par l'Irlande, pourrait atteindre Gaza dans la soirée. 15 personnes, dont un prix Nobel de la paix et un ancien responsable de l'ONU, sont à bord de ce cargo chargé d'un millier de tonnes de matériel humanitaire. À Jérusalem, la ville est en état d'alerte. En ce jour de prière, la police israélienne a interdit l'accès à l'esplanade des mosquées aux hommes de moins de 40 ans, mais aucun incident n'est à déplorer pour l'instant. Des nouvelles encourageantes sur le front de la marée noire dans le golfe du Mexique. Le directeur d'exploitation de BP a annoncé que la grande majorité du pétrole devrait être capturée grâce à l'entonnoir mis en place hier soir sur la fuite. L'entonnoir devrait permettre de réduire l'écoulement en espérant que cette fois soit la bonne. British Petroleum est allé jusqu'ici d'échec en échec pour stopper la fuite qui dure depuis le 22 avril dernier. Le président Barack Obama est attendu sur place dans la journée. C'est un match amical, mais un match qui sera scruté par les fans de l'équipe de France. Dans deux heures, l'équipe de France de football rencontrera la Chine à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Dernier match de préparation avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde en Afrique du Sud dans une semaine. L'occasion de vérifier la forme des Bleus et la pertinence des choix tactiques du sélectionneur Raymond Domenech. Et sous le soleil exactement, les demi-finales messieurs de Roland-Garros c'est en ce moment porte d'Auteuil. Et le duel Robin Söderling-Thomas Berdych tient ses promesses 2-7-1 pour l'instant pour Berdych et le quatrième set est en passe d'être remporté par Söderling. La deuxième demi-finale opposera le tenant du titre Rafael Nadal à l'Autrichien Jürgen Melzer.
Nous autres.
Zoé Varier. Elle s'appelle Moutabar Tadjibayeva. En Ouzbékistan, Moutabar était une journaliste indépendante et la responsable d'une organisation de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, elle est réfugiée politique et vit dans la banlieue de Paris.
Когда я умираю, смотрите.
Nous autres.
Я упаду.
Ce soir, à partir de 20h.
France Inter, partenaire de la première nuit de la philosophie à l'école normale supérieure Udulme à Paris. Ce soir dès 20h, le temps d'une nuit blanche, la philosophie pour tous. Entre rencontres, débats, conférences, théâtre et cinéma. Retrouvez la nuit de la philosophie organisée par l'école normale supérieure dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
16h03 sur France Inter, l'heure de Carrefour de l'Odéon. Frédéric L'Odéon.
Oui, bonjour Corinne.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Bon, hier, vous avez été nombreux à entendre le concert retransmis de Saint-Denis. C'était très beau et il y a eu malheureusement deux coupures dans le début du Requiem de Cherubini. C'est pour ça que je l'ai promis hier à l'antenne que je passerai un extrait de ce Requiem qui a été un tout petit peu haché, le Kyrie notamment, vers la fin de l'émission. Et pour commencer et pour accompagner les journées de la mer, des lacs et des rivières qui commencent aujourd'hui, c'est jusqu'au 8 juin, je vous propose quelques histoires d'eau. Et ouais, la musique est riche de références à l'élément liquide sous toutes ses formes. Voici par exemple l'ouverture « Mer calme et heureux voyage » de Félix Mendelssohn, d'après des poèmes du grand Goethe. Donc « Mer calme », c'est un calme profond règne dans l'eau, la mer repose sans mouvement et le marin soucieux voit avec inquiétude la surface lisse autour de lui. Bah oui, il ne bouge pas. Et puis heureusement, il y a « Heureux voyage », les brumes se déchirent, le ciel est clair, et Éol, le dieu du vent, c'est moi qui précise bien sûr, dénoue le ruban anxieux, les vents susurrent, le marin s'active, vite, vite, la vague se fend, le lointain se rapproche, et je vois la terre. Thank you.